Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
Moi aussi, j'ai pas été impressionné du gars-là. Désolé, mais tu sais, je veux pas. Tu sais, c'est Catherine Guillemette qui était là la semaine passée. Karen est de retour à son poste.
Oui.
Puis Nicolo, ben, il a la tête d'une boîte à cet enceinte, là, parce qu'il est en train de déménager. Et on lui dit que tous nos pensées sont avec les déménageurs.
Pourquoi ça pue chez lui?
Oui.
OK.
Non, j'ai regardé le gala des Oliviers, puis le questionnement qui en ressort, qui moi m'a pété en pleine face. Bon, moi tout, j'ai pas trouvé ça tant drôle là, puis c'est
Hugo Dumas demande le retour de c'est Catherine Levac qui a animé ça une couple d'années ou une
ouais.
année ou deux. Là.
Mm-hmm. C'était meilleur.
J'ai pas été impressionné, je pense, par l'animation.
C'était non. qui hier?
Puis c'était deux filles et Cathy Gauthier.
Ah OK.
Moi, Cathy Gauthier, j'ai un mauvais souvenir.
Okay.
Tu sais, elle a commencé dans l'humour, puis ça, c'est dans le temps là qu'on faisait le calendrier Summum avec des méga lancements. Puis on avait fait un lancement du calendrier Summum au pavillon de la jeunesse. Ça vous dit quelque chose?
Oui.
Et il y avait du monde en tabac. C'était plein. Puis, il y avait un band de musique, puis il y avait Cathy Gauthier qui venait donner un show d'humour, mais pas endurable. Dans les corridors, là, puis une jolie femme, là. T'sais, puis là, on remonte à l'époque, ça fait quand même... Et pas endurable, pas du monde. Moi, je me souviens, j'étais parti, j'ai dit, OK, là, je vais rien à gérer là-dedans. Là. Je pense que je faisais une présentation, puis c'est tout. J'ai sacré mon camp, j'ai dit, c'est pas endurable. Peut-être qu'elle était sur une mauvaise journée aussi, là, je ne sais pas trop. Mais non, le constat, là, du gala des Oliviers d'hier,
ouais.
dans mon côté, c'est... Ils sont où, les humoristes? Tu sais, parce qu'hier, là, moi, Dufour qui gagne, je la comprends pas. Je savais même pas qu'il y avait un jour d'humour. Fait que...
Il semble qu'il y en ait plus que jamais des humoristes. J'ai lu ça en fin de semaine, là, qu'il y a plus d'humoristes que,
oui,
que jamais.
Mais ils sont pas morts. Les, mettons, là, on a nommé Martin Matt, mais je comprends que lui, il était sur beaucoup d'autres projets. Puis tu sais, notre collègue P.A. Méthode fait partie, tu sais, a fait partie à un moment donné, lui aussi, de la relève. Mais ils sont où, ces humoristes-là? On dirait qu'ils... eux-mêmes se sortent de la gang. Hier, là...
Il y a quelques-uns qui font de la TV. Ça doit être plus payant de faire ça. Là.
Ben, j'imagine. C'est ça.
Il y en a plusieurs qui font pas la tournée, je pense. Qui font pas la tournée de show, qui font ouais. autre chose. Ils sont humoristes, mais pas humoristes de salle.
OK, mais ils font quoi?
La TV, du web,
de la radio. Ouais. De la radio à Montréal.
Ils podcast beaucoup.
Ouais.
Matt Duff, il a fait le Sandbell avec son show quand même.
Ben, OK, je savais pas. Ouais. Je savais pas.
Puis je me demande s'il n'y a pas foulé même le Sandbell. Ou en tout cas, c'est okay. ça a été une belle crowd.
Bon,
là,
ben, tant quantité, mieux. Là. Non, mais je, puis il y a de la place pour la relève. Mais tu sais, comme hier, ils ont fait un clin d'œil à Michel Barrette. C'était un tabarouette de beau clin d'œil.
Ah, t'as
drôle.
Trouvé ça bon, toi?
Ben,
moi, j'étais un peu gêné pour lui. Je me dis, on n'est pas sûr qu'il était content là, qu'on lève le dentier de I.A. Tremblay. Là.
Ouais.
Je sais pas. Moi, je regardais ça dans mon salon. Je me disais, c'est ça qu'on retient pour vrai, là.
Ouais, toi, Ray.
On a retiré un dentier hier à soir.
Garde ton dentier,
Ray. Je comprends. En tout cas, c'est ça. Je sais pas. Je trouve ça... imaginez si on ramenait tous les humoristes. Puis là, on pourrait remonter. Mais ding et dong, on comprend que le duo peut pas être comme il était. Mais c'est quand même... Il y a eu de grands humoristes au Québec. Puis,
mais Yvon Deschamps, à partir de Yvon Deschamps.
Ouais.
Martin Matt est quand même un des meilleurs.
Oui, mais il y en a plein d'autres que Mélon.
Patrick Huard, j'ai bien aimé. Je sais pas si c'est un humoriste ou un raconteur, là, Patrick Huard.
C'est
dans
vrai.
Dans quelle catégorie?
C'est vrai.
Tu humoriste?
Ben oui. Tu sais, il y a eu des humoristes, il y a eu des imitateurs, là. Des imitateurs, il y en a
Gassien,
comme
Gassien, là, c'est bon,
ben oui. Mais peut-être qu'on est trop vieux puis on n'est plus le plus visible. Ou ben,
ça se peut, ça.
Moi, ce que je me suis dit hier, c'est que ces humoristes-là font de la tournée, de la scène. Ils deviennent très, très, très riches. Et il s'assoit là-dessus. On dirait. Tu sais, je sais pas. Des fois, je me demandais où ils étaient passés. Parce que c'est bien cool là, de voir le Philippe, Audrey, Larue,
Saint-Jacques. Ses parents ont fait un compromis.
C'est un homme,
ouais.
Ça.
Fait oui. Que, oui, puis tu sais, lui, il était là, puis il y avait plein d'autres de cette gang-là là, qui étaient présents de ce groupe d'âge-là. Puis
il y a une école de l'humour, Stéphane.
Ouais, je comprends, mais c'est parce que ce serait le fun qu'il y en a qui t'offrent. J'ai trouvé, la seule affaire que j'ai trouvé impressionnant puis intéressant, c'est de voir un Mike Ward. Il avait l'air d'un grand-père par rapport à toutes les autres quasiment dans la salle.
Il se décrit comme étant un vieux punk de 50 ans.
Ouais, c'est ça. Mais lui, il était encore là hier. Il était encore en nomination.
Ouais, c'est son podcast qui l'a rendu riche.
Mais hein.
Ben, je pense que la tournée l'a rendu riche aussi, mais même avant le podcast.
Il dit que le podcast, là, c'est ce qui a fait faire le plus d'argent.
Ah, c'est 600 000 piastres de pub par année.
Fait que, OK, c'est quand même une belle rentrée.
De pub et d'abonnement, excuse-moi, ouais. Là, c'est en revenu en soi. Là.
OK.
Mais je pense que le modèle a beaucoup changé. Dans le monde de l'humour, là, le modèle, je fais la tournée et j'ai un spectacle et c'est plus tant ça. Mais t'as raison, c'est différent parce que c'est pas plate aller s'asseoir dans une salle de spectacle pour regarder un show d'humour. Souvent, là, moi, j'haïs pas ça. Mais c'est différent. Ça existe moins que comme avant. Là. C'est surtout des shows de 50 minutes, vite. Puis, ouais.
Mais c'est culturel un peu. Au Canada anglais, c'est moins fort, là, l'humour.
Oui, je pense que, ben, je sais pas. C'est parce que là,
ça nous concerne moins, peut-être. Là,
mais c'est parce qu'eux autres, ils vont écouter des humoristes américains.
Ouais, il y a pas de barrière américaine,
c'est ça. Il y a pas de barrière de la langue. Mais tu sais, Simon Leblanc, hier, je voyais Simon Gouache, il était là à l'animation, là, d'ailleurs. Mais tu sais, ils sont d'invétérans. Ben, attends, c'était à eux autres, la nouvelle génération, puis ils sont déjà rendus d'invétérans.
On est arrivé depuis. Vite.
C'est ça. Tu sais, je comprends que Simon Leblanc a pas tourné, peut-être, dans l'année d'inscription. Puis, mais, ce que je vous racontais la semaine passée a été confirmé par quelqu'un qui est venu sur la scène chercher son prix. Quelqu'un est venu chercher ou annoncer un prix au niveau justement des podcasts, je pense. La personne a dit, ben c'est sûr qu'on ne gagnera pas cette année, on s'est pas inscrit. Ah. Vous comprenez que ça marche par inscription.
Le podcast de Denis n'est pas inscrit. Il aurait gagné hier. Là. Ils ont des milliers d'abonnés à 10$ par mois. C'est Jay La Liberté qui a gagné. Je ne sais pas c'est qui.
Ouais.
Mais ils sont pas inscrits, puis ils nous l'ont dit clairement. Là, les abonnés nous l'ont expliqué pendant un des épisodes. Ils disent, nous, on s'inscrit pas à ces affaires-là. On n'a pas de temps à perdre, puis l'industrie nous aime pas, puis blablabla.
Les Denis Drolet disent que l'industrie les aime pas.
Par bout, oui.
Ouais, ouais, Colin. C'est surprenant. Mais tu le vois, là, je le sens, qu'il y a une genre de petite rivalité dans ça. Puis...
Les générations, ouais, c'est
ouais,
ça.
Ouais, entre les générations.
Ouais, ouais,
c'est
ouais.
Surtout
moi
ça.
Moi aussi, je sens ça, t'as raison.
Fait que, OK. Voilà, les présentations sont faites. Je veux juste vous dire avant qu'on
les
passe.
Les humoristes sont des agents.
Ouais, oui. C'est des machines à cash, là. Comment tout ça fonctionne, honnêtement, je le sais pas.
Des machines à cash, mais à partir d'un certain moment, là. Je pense qu'il y a du monde qui doit appeler papa, maman encore quand t'es dans la relève pour les fins de mois, là.
Ouais, je comprends.
Mais Polar me disait que PA, il leur donne un 100 à chaque jour. Tous les jours, il rentre avec un 100$.
Qui c'est qui vient donner ça?
PA.
C'est France, pas le pays qui vient donner ça? Non, ouais. Moi, c'est une claque qu'elle veut me donner chaque matin.
Ah, oui, je comprends pas.
Mais non, je comprends pas. Mais tu sais, mettons, là, tu dis, si je calcule vite, là,
ouais.
Tu dis les revenus d'abonnement et de publicité du podcast le plus écouté au Québec, qui est Mike Ward, à 600 000. Si c'est vrai, c'est pas beaucoup.
C'est un chiffre que j'ai entendu il y a deux ans.
Oui, mais c'est parce que...
C'est de l'argent.
Comment tu penses que ça coûte produire son affaire? Tu sais, il y a ça, là. Ça, c'est les revenus. Maintenant, puis mettez en parallèle le prix que je sais pas qui a vendu la poche bleue à des Ontariens.
Ça, des millions.
En millions. Mm. Je comprends pas comment que ils peuvent payer. Tu sais, en plus, là, si quelqu'un achète, mettons, comme Mike Ward, il se verse un problème. Est-ce qu'il se verse un salaire à lui? Est-ce qu'il verse un cachet aux invités? Est-ce que, tu sais, il y a la salle, il y a la billetterie? Je le sais. Moi, j'ai essayé les podcasts. C'est pas le même niveau, là. Je me compare pas, là. Tu sais, c'était pour le fun, être notre petite gang ici. On avait 100 personnes par soir. C'était la capacité de la salle. Qu'on faisait des podcasts. On en faisait deux. Comment ça coûtait venir voir ça? Une vingtaine de piastres?
Mais lui-même, il dit qu'il fait beaucoup d'argent, Mike Ward. Donc, il doit en rester.
Ben oui, mais...
Parce qu'il en reste pas, il sait pas compter.
Non, mais c'est parce que je pense qu'il doit en faire beaucoup ailleurs aussi, avec plein d'autres choses. Tu sais, j'ai l'impression qu'une tournée, c'est beaucoup plus payant qu'on pense qu'un podcast. Tu sais, moi, j'ai mangé plusieurs milliers de dollars avec le podcast, là, parce que la production vidéo, puis maintenir ça en vie, tout le monde que ça prenait pour...
C'est dur faire une tournée. Physiquement, c'est dur faire une tournée. Là.
Ça, c'est clair.
Tu voyages à travers le Québec, c'est souvent jeudi, vendredi, samedi... c'est difficile.
Absolument, absolument. Fait que c'est juste la petite analyse vite que je faisais là, en écoutant ça hier soir.
C'est correct. C'est une industrie qui est quand même importante dans l'histoire de la province. Tu sais, c'est culturel, comme Ray le disait. Fait que c'est moi, je trouve ça bon qu'on se penche là-dessus une fois de temps en temps. Ouais.
Absolument.
Ils sont dans différents médias, les humoristes. Ils sont pas juste du spectacle.
Oui, mais c'est parce que si c'est rien qu'un tremplin, ça fait de l'industrie, ça diminue beaucoup la valeur de l'industrie.
Ils sont embauchés aussi pour continuer à être drôles. Là. Quand t'embauches un humoriste à la radio, fais-moi 3-4 jokes de temps en temps. Mais il faudrait que je ris de temps en temps.
Oui, c'est pas, ils veulent pas être drôles nécessairement. Prenez Guillaume Lepage. Quand il a accepté l'animation, tout le monde en parle.
Ouais.
C'était pour arrêter de faire des jokes.
Oui.
Tu sais, puis je vous le dis souvent, c'est dur en tabarouette. Écrire un spectacle d'humour, là, ça doit être une corvée insoutenable. Puis c'est pour ça que des fois, moi, il y a des gens que je suis pas un fan de Jean-Michel Anctil, mettons, mais le nombre de spectacles qu'il a écrit, le nombre de numéros qu'il a écrit, le nombre de représentations qu'il a faites, tu sais, à un moment donné...
Il y a un de ses shows qui a runné, genre, pendant 4 ans et demi. Il a fait au-delà de 700 représentations.
C'est
incroyable,
stock,
là.
C'est ça, puis des salles toujours pleines. Ouais. Tu sais, il faut les reconnaître, ces
humoristes-là. Une fois que ton nom est établi, tu serais bien fou de pas en profiter.
Ben non, je sais.
Quand on cherche quelqu'un pour faire une émission de radio, là, il y en a sûrement du monde qui sont capables de faire une émission de radio dans la rue. Ils le savent peut-être pas eux autres, mais on le connaît pas.
Absolument.
Il ne peut pas l'appeler à matin. J'ai une émission du retour.
Là, c'est ça. Voudrais-tu venir nous raconter ta vie? T'as-tu un cabanon en construction, quelque chose?
Oui, mais d'un autre côté, c'est pas si facile non plus. Faut pas penser. Moi, j'ai un de mes chums qui m'insulte terrible à chaque fois qu'il parle de notre métier. Il dit, ah ben toi, c'est cool, ta job, tu t'en vas devant ton micro, tu l'allumes puis tu parles. C'est autre chose aussi. Tu sais, c'est à chacun sa spécialité, je dirais.
Même pas de la médecine, là.
Mais non, c'est pas de la médecine non plus. Mais toute chance.
T'as bâti l'émission pour te faire filer tout le long. C'est parfait. Chose, puis une fois de temps en temps, un documentaire. T'en as-tu un à nous raconter?
Un documentaire?
Ouais.
Non.
OK.
Non, ben j'ai écouté, mais c'est les funérailles de Brian Mulroney que j'ai écouté en fin de semaine. Ça a été, Ray l'a dit au début de l'émission, ça a été fort intéressant. C'était long, là, l'émission au grand complet.
Combien de temps, à peu près? Ça a commencé à
2h30, d'après moi, que ça a duré.
Avant
que le corbillard sorte.
Quand
là,
même, OK. Ouais.
Moi, j'ai adoré. Hey, au début, là, je capotais parce que là, ça a été quand même des funérailles d'État. Puis c'est drôle parce que Tristan était à côté de moi. Puis Tristan me disait, mais pourquoi ils font tout ça? Tu sais, les soldats, là, ils marchent de côté, ils font tout. Je dis des soldats, c'est pas des soldats, c'est des...
La gendarmerie royale.
La gendarmerie royale. Là, ils font un pas de côté!
Oui.
Pas de côté! T'sais, ils font des petits pas de côté. C'était un... En tout cas, mais on comprend que c'est le protocole.
Ouais.
Puis là, ils sont entrés. Step! Hein, ils disaient step. Chaque membre de la gendarmerie royale, il était 8 porteurs, je crois, du cercueil. Et là, ils montaient une marche à la fois. En tout cas, donc, tout ce processus-là d'entrer le cercueil de M. Mulroney à l'intérieur de l'église, ça a été quand même assez long.
C'est lui qui a tout décidé. Hein. M. Mulroney a tout décidé de la cérémonie.
Ouais.
Il avait tout écrit ça. Là.
Tout écrit.
Jean Charest a dit, ça fait 7 ans que je sais que c'est moi qui parle à son... à ses funérailles. Ça fait 7 ans, il me l'a demandé.
C'est ça. Il est organisé.
Il dit, tu vas parler.
C'est ça.
Puis il dit, probablement, je vais avoir des funérailles d'État. Mulroney avait dit ça à Jean Charest.
Ah ouais, c'est très bon. Puis j'ai aimé aussi le fait que ses enfants avant la cérémonie, ces deux gars, ils étaient en entrevue avec Patrice Roy, puis ils disaient, tu sais, il a dit, puis comment ça se passe? Je les ai trouvés très terre à terre. Ils disaient, là, ça fait 3 semaines qu'il est mort, là. Tu sais, fait que, tu sais, on a eu plusieurs rencontres.
Ils ont été excellents cette semaine, la famille, là, parce qu'ils en ont rencontré du monde, là.
Oui, vraiment.
Il y a eu des chapelles ardentes à Ottawa, il y en a eu à Montréal. Ils n'ont vu du monde.
Oui, puis ils se sont vus, eux. La veille des funérailles, vendredi, ça aurait été l'anniversaire de M. Mulroney. Ils sont
85,
fait,
ouais.
Ils se sont fait un party. Fait que, ou une soirée. Puis là, un des fils disait, écoute, on a pleuré, on a beaucoup ri, on s'est amusé, on s'est diverti. Puis il se préparait pour la journée de samedi. Fait que moi j'ai trouvé ça cool quand ça a commencé. Tu sais, j'ai bien de la misère avec tout ce qui est religieux. Là. Fait que là, le curé a parlé vite, là. Puis je vais être bien franc avec vous autres. Je regarde les curés en robe en avant puis tout, puis je vois rien que des pédophiles. Fait que c'est moi le problème, là, mais c'est un peu à cause d'eux autres si je vois ça de même. Mais là, eux autres, ils n'ont pas parlé longtemps, ils sont assis là. Et là, les hommages se sont enchaînées les unes derrière les autres avec une légère pause musicale entre chaque hommage. Caroline, sa fille, a été la première. elle a été d'une... je la voyais première ministre, tu sais.
Brian a toujours dit à sa fille, tu vas finir première ministre du Canada.
Ah ouais, c'est ça. Fait
là,
que
présentement, elle travaille quand même au gouvernement ontarien. Là.
Exact.
Elle s'occupe de sa coche.
Ouais, c'est ça. Fait que,
elle est passée en politique fédérale, puis ça n'a pas fonctionné.
Ça a moins fonctionné avec le parti.
Mais pour l'instant, hein, on s'entend qu'une vie, c'est long.
Puis de ce que les analystes disaient en fin de semaine, ils ont davantage parlé du troisième garçon, Mark.
Okay.
Mark, c'est lui que Brian voyait grimper du côté des conservateurs canadiens. Semble-t-il qu'il y a un genre de fit avec Poilievre. J'ai la misère à comprendre parce que Poilievre m'apparaît tellement extrémiste des fois.
Mais il est plus terre-à-terre, Mark. Ben, c'est un artiste.
Ouais,
ben,
c'est ça.
Un animateur de TV.
C'était le fun de découvrir ça. Et donc, Jean Charest est venu parler aussi.
Très bon, M. Charest.
Il y a eu... Justin Trudeau, qui a été très bon.
Excellent.
Très senti. Puis, tu voyais qu'il lisait pas, lui, de feuilles. Il était très... Mais ce sont des...
S'il y en a un qui comprenait comment les enfants de Brian Mulroney pouvaient se sentir, c'était Justin.
C'est exactement.
Ils ont vécu la même vie. Là.
Oui, il l'a très bien livré. Jean Charest était époustouflant, moi, je trouve.
Français-anglais, ça coule. Hein? Ouais, paf-pouf.
Puis, il mettait du poing, puis il montait le ton. Hein? C'est un orateur incroyable. Ouais. Nathalie Normando me l'a répété à plusieurs reprises, comment c'était quand même quelqu'un qui a été important. Mais le plus drôle...
Pierre-Carles
aussi, oui. Mais le plus drôle, c'était Wayne Gretzky.
Wayne,
il dit...
Ça a été cool.
Ouais, il est arrivé là, il dit... dans les discours pour aujourd'hui, là, grosso modo dans mes mots, je vous dis ça de même, il dit dans les discours aujourd'hui, il y avait un paquet de politiciens puis un joueur de hockey. Vous aurez pas de misère à trouver c'est qui le joueur de hockey.
mais
il a raconté, puis Wayne non plus, il avait aucun texte. Ça a été très court. Mais il a raconté comment Brian Mulroney avait déjà appelé chez eux.
Son père, c'est Walter qui parlait.
C'est Walter qui avait jasé avec. Puis il raconte ça, mais le plus drôle, c'est que dans une soirée, là, il me semble que c'est une soirée de galop, je sais pas trop, il soupe avec du monde. Puis Brian Mulroney est assis avec Wayne Gretzky, puis leurs épouses, puis tout ça, puis il dit, tu sais, hey, la Coupe Stanley de 93, là, donc c'était l'année d'avant ou l'année même, là, je me souviens pas trop. Il dit la Coupe Stanley 93, ça a été bon en maudit, bon pour le Canada. Ça, c'était la Coupe du Canadien. Fait qu'il dit, Colin, que je suis content, c'était un bon coup. Puis, fait que Wayne, il dit, je lui donne une petite tape sur l'épaule. C'est parce que moi, je jouais dans l'autre équipe. Hein? Hey, c'était quand même cocasse. Bon,
de la sécurité aussi, ça a été long hein, pour tous ces dignitaires-là. Là. Il fallait tous qui passent par la sécurité.
Ok.
Et c'est du monde qui ont des gardes de sécurité, puis que c'est quand même du monde qui.
Ça fait du monde à messe.
Oui, c'est du monde entre guillemets important là, qui ont toujours besoin de sécurité pour aller un peu partout. Ça a commencé à 9h, ils s'en allaient là par autobus à coût de je sais pas combien là. Pour passer la sécurité de 9 à 11.
C'est ça.
Pas parfait, là.
Non, puis ça a fini, il était passé 13h30.
Ouais.
Fait que ça a été une longue journée. J'ai vu Wayne Gretzky assis dans l'église. Il était de bonne heure. Il devait être dans le premier bus ou je sais pas trop quoi.
Wayne, il a dit, je vais y aller de bonne heure, moi.
Ouais, c'est ça.
Je me prendrai de bonne heure, moi, être là.
C'était vraiment intéressant quand même. Hey, OK. Donc, ça, c'est ce qu'on a retenu, entre autres, dans les choses qui se sont produites ce week-end. On va continuer. En barque, on n'ira pas vite. Peut-être en vous disant qu'aujourd'hui, mais c'est un anticyclone hein, sur Québec. C'est pour ça que c'est fret. Mais ce sera très ensoleillé aujourd'hui. On va avoir ce midi 1 degré et on va rester à 1 degré. On est à moins 6 actuellement. La nuit prochaine, qu'est-ce qu'on a pour comme température la nuit prochaine? Je vais vous donner ça si je peux fermer la publicité inutile ici. Là, bon, voilà. La nuit prochaine, on sera sous des valeurs saisonnières. Donc, non, pas sous les valeurs saisonnières, mais en tout cas sous le point de congélation. Ça, c'est clair. Autour de moins 2, moins 3 degrés. Ça, c'est pour la nuit prochaine. On débute la journée sous le soleil demain mardi avec un zéro à l'heure du midi. On va être plus 4 degrés en après-midi. Et là, les températures restent plus élevées pour le reste de la semaine. C'est de la pluie mercredi, jeudi à l'horizon pour le moment, mais des températures qui vont aider la fonte des neiges.
Question de néophyte. On m'a texté dans le 5 heures ce matin pour dire que les acériculteurs, ça commençait à couler foncé. Dans le sens que ça peut-tu commencer à couler plus comme au début à partir d'un moment dans la saison?
C'est qu'il n'y a plus beaucoup d'eau sucrée.
OK.
Fait que...
Je connais pas ça du tout, là. C'est pour
ça que... Mais tu sais, tout le monde a battu son record de sirop Et à des dates. Et là, ils prévoient faire du commencer le sirop d'érable aux fêtes l'année prochaine. Si ça continue de
même. Ils ont un peu, là. Un long bonus au mois de mars, là.
Oui. Mais tu sais, à un moment donné, il n'y a plus de jus dans l'arbre, là. Tu sais, fait que.
C'est ça ma question.
Là, donc, ils vont le voir, là, surtout demain, mettons, là. Il va avoir, là, on est dans le moins cette nuit, la nuit prochaine. Puis on tombe à 4 le jour. Ouais. Là, ça va donner soit que ça coule encore ou c'est de la boîte et que ça donne. Donc, si ça coule un petit peu plus foncé, quand ils font bougir, ça donne un sirop beaucoup plus foncé, donc de moins bonne qualité.
Okay. Bougir.
Mais tu sais, moi, du sirop d'érable, là, j'ai tellement de monde que je connais que j'en ai des cannes et des cannes. Puis, mais j'aime ça, on en mange beaucoup.
Ben oui.
Puis en fin de semaine, on était au condo, j'avais acheté des gaufres. Hostie, j'ai oublié le sirop d'érable. Obligé d'aller à l'épicerie. Merci.
Payez ça 9 piastres la canne.
Ben oui, 9 piastres la canne.
Quand on a plein chez vous, c'est insultant.
C'est un petit peu insultant, oui. Surtout que c'est fait par des amis, des gens que je connais.
C'est impossible de manger un gaufre, pas de sirop.
C'est impossible. C'est impossible.
Moi, je fais ça toi matin.
Toi, tu mets pas de sirop d'érable?
Ben non, mais j'aime pas le bonheur. Qu'est-ce que tu
c'est ça. OK, embarque, on ira pas vite. C'est un segment d'actualité où tous les membres de l'équipe ont chacun une nouvelle avec laquelle qui veulent partager avec vous. Mais on commence toujours avec Pierre Blais qui, lui, nous donne les nouvelles, les principales de la journée.
D'abord, au sujet de Pierre-Alexandre Drolet de Saint-Zachary en Beauce, on a réussi à extirper son corps au Maine. C'est la Lambardée qui est survenue la semaine dernière, à la fin de la semaine. Donc, le corps de ce camionneur-là a été retrouvé.
Il n'était plus dans la cabine?
Écoute, je dis retrouvé. Est-ce qu'ils ont plongé, ils sont allés le chercher? Est-ce qu'il était encore dans la cabine?
Ça doit, parce que là, qu'il déclare mort, il l'avait déjà. C'est ça. Pourquoi ça sort là?
Probablement que le temps d'aller chercher. C'est une nouvelle de samedi. Là, probablement que le temps d'aller chercher le corps, simplement, mais c'est de confirmer à la famille qu'on a extirpé le corps. Là, j'imagine qu'il était bien sûr au courant.
Un jeune homme de 35 ans, camionneur, qui a plongé après Jackman, là, un petit peu plus loin que Moscow.
C'est le propriétaire de LMP Drolet Transport Inc., Pierre-Alexandre Drolet. Ouais. On dit que c'est les mauvaises conditions routières là, qui expliquent tout ça. Du côté de Lévis aussi, on a retrouvé le corps d'une femme pas très loin, à Saint-Nicolas plus précisément, donc au bord de l'eau à Lens-Gingras. J'ai pas de détails. C'est arrivé, on a trouvé le corps hier après-midi, milieu d'après-midi à Saint-Nicolas. Pour le moment, c'est ça, pas de détails. On ne sait pas combien de temps elle a passé sous l'eau, on ne sait pas qui elle est, on ne sait pas quel âge elle a non plus. Mais on sait qu'on a retrouvé un corps à Lévis, donc à Saint-Nicolas plus précisément.
Lens-Gingras, j'aimerais ça savoir c'est où. C'est chemin de Lens-Gingras, Lévis, tiens, j'ai ça ici. C'est ça que Saint-Nicolas, c'est là, OK.
T'es donc un petit peu à l'ouest du pont.
OK.
Bon, c'est à faire à peine.
Ouais, c'est ça. Parce que, donc, est-ce que c'est quelqu'un qui a décidé? Tu sais, aux chutes à Charny, ça arrive de temps en temps, là. Et puis souvent, c'est quand ça arrive de jour, c'est rarement fait incognito parce qu'il y a toujours du monde aux abords des chutes à Charny. Alors, est-ce que c'est ça? Puis là, souvent, les corps vont être projetés vers le fleuve. Est-ce que ça vient de ce coin-là? On le sait pas. J'imagine qu'on le saura. Mais qu'on trouve. Mais là, on a-tu l'identité de la dame?
Non, on n'a rien.
On n'a rien. OK. Même pas son âge, rien.
Absolument rien.
Puis, on n'est pas capable de voir combien de temps elle a séjourné dans l'eau.
Non plus. Pas pour l'instant, du moins. Là, c'est ce qu'on n'a vraiment pas de détails de dévoiler. Mais est-ce que probablement que la police de Lévis va nous donner un petit peu plus
de détails.
Parce
que des femmes disparues à Lévis, il ne doit pas en avoir 60.
C'est ça.
Fait que j'imagine qu'on va être capable de savoir un petit peu plus, malgré que si c'est un geste volontaire, souvent, on va dire...
Probablement qu'on n'entendra plus.
C'est ça, on n'entendra plus parler du tout.
Le propriétaire du bar L'Extase à Lévis est accusé de trafic de stupéfiants et de possession d'armes. Donc, Brian Marcoux arrêté avec deux complices aussi, présumés pour diverses infractions. On parle de stupéfiants et d'armes à feu. Il y a eu 9 mois de délai entre la perquisition qui est survenue l'été passé et les arrestations qui sont survenues au cours des dernières heures, jeudi matin plus précisément, les 3 qui ont été arrêtés. Accusés donc de trafic de stupéfiants, possession d'armes à feu à utilisation restreinte chargée, possession d'un dispositif prohibé et possession d'une arme prohibée. Les complices font face à peu près aux mêmes accusations. Alors, puis en juin dernier, là, lorsque la perquisition a eu lieu, on avait saisi 6 véhicules, une presse à cocaïne, 3 pistolets, une arme à impulsion électrique, donc un taser gun, une arme longue, 300 grammes de coke, 8 grammes d'héroïne, plusieurs milliers de dollars. Et Radio-Can nous dit qu'on n'a pas l'indication à savoir si c'est affilié à soit les motards ou le Blood Family Mafia. Mais dans le Journal de Québec, on nous confirme que Maxime Boucher-Labrec, qui est l'une des personnes arrêtées, est un membre des Dark Souls, un club-école des Hells Angels, puis Derek Samuel est l'autre personne qui a été arrêtée pour les accusations similaires.
Good.
En Russie, il s'est passé quelque chose d'affreux en fin de semaine et on a décrété le deuil national après ce massacre-là qui est survenu dans une salle de spectacle. Ça a été revendiqué par l'État islamique et c'est l'attaque la plus meurtrière en Europe revendiquée par l'État islamique. C'est 137 morts de confirmés jusqu'à maintenant. Le bilan a changé un petit peu au cours du week-end. On parlait de 133 au début de la fin de semaine.
Oui, mais c'est parce qu'il y avait tellement de blessés graves. Ouais. Il y avait 132 morts, puis il me semble qu'il y avait 132 blessés graves.
Là, j'étais à 182 blessés, dont 101 qui sont toujours hospitalisés. Puis écoute, t'as raison, là, on est dans les nuances de quelques chiffres ici et là, mais tu sais...
Est-ce qu'on sait comment ça s'est passé, je veux dire...
On a peu de détails pour l'instant. On sait qu'il y a 11 personnes qui... Oui, c'est ça. On a retrouvé 5 sandouilles de balles, entre autres, puis sur place. Il y a 11 personnes qui ont été arrêtées, 4 personnes qui seraient des assaillants directs en lien avec cette attaque-là. Puis du côté des représentants russes, ce qu'on dit, c'est qu'il y avait un lien avec l'Ukraine. Donc, ces gens-là avaient un faux fuyant vers l'Ukraine, avaient une façon de se réfugier en Ukraine.
Ça, c'est leur version.
Ça, c'est la version russe.
Oui, c'est ça.
Mais les Américains avaient dit aux Russes de se surveiller qu'ils s'en venaient ce genre d'événement-là.
Ah oui?
Puis la sécurité russe a comme pris ça à la légère un peu trop, semble-t-il. Ils sont fait déjouer... Ils croyaient pas que c'était vrai ce qu'ils se disaient.
Que ça pouvait finir comme ça.
Il y a beaucoup de ça, hein. Il y a beaucoup de jeux de, pas de négociation, mais de stratégie. Donc, ils ont pas cru les Américains. C'est pour ça que Poutine, il blâme, entre autres, les Américains pour ce qui est arrivé.
OK.
C'est pour ça qu'ils le savaient, eux autres.
Ouais.
Mais ils le savaient parce que la CIA, elle travaille, là.
Exact. Ils ont sûrement des membres infiltrés quelque part. Oui. Ils sont un peu infiltrés.
Ils nous disent pas tout le temps, là, quand ils arrêtent des pas fins, là.
C'est ça.
Je dirais qu'ils sont partout. Ils sont assurément partout. Mm-hmm. Puis je termine avec Gabi Drolet, le chroniqueur circulation qu'on a connu ici dans la région de Québec pendant des années, qui est décédé au cours des dernières journées. Donc, Monsieur Circulation, à l'âge de 80 ans, il est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi. Il était atteint d'un cancer. Il a travaillé notamment à Radio-Can, au FM 93, sur l'AM également. Donc, Monsieur Gabi Drolet, Monsieur Code Rouge, Code Jaune, Code Vert, pour parler de la circulation ici à Québec. Moi, ça a marqué mon enfance. En tout cas, je m'en souviens très bien.
Oui, moi, j'ai eu à collaborer avec lui, là. Je me souviens pas dans peut-être à CKNU, ou en tout cas dans plusieurs émissions. Et j'avais trouvé ça le fun parce que lui, il travaillait pour les stations de radio au départ. Évidemment,
ensuite,
avec
indépendant.
Ensuite,
il était indépendant.
Ensuite, c'est ça.
Ses services.
Ça s'appelait Circulation. C'était quoi son site internet? Donc, ça portait son nom avec Circulation, évidemment, dedans. Puis là, c'est là qu'il y avait des codes de couleurs. Et
il finissait toujours en disant « cette circulation ».
Donc, je le savais même pas malade. Mais oui, c'est quelqu'un qui a marqué l'industrie de la radio pendant de nombreuses années. Moi, c'est Myriam Segal, en fin de semaine, qui me l'a appris dans son émission.
Il avait 80, hein?
Je l'ai entendu. Oui, 80. D'ailleurs, comme aujourd'hui, c'est aujourd'hui ou c'était hier la fête de Jeannette Bertrand?
C'est aujourd'hui? Dans le journal, 99
ans. Il en parle dans le journal, OK. 99 ans, ouais, c'est... je savais pas qu'il était à ce point âgé. Puis, hier, elle était... en fin de semaine, elle était présente à l'émission qu'on écoute, là, des fois.
En direct de l'univers.
En direct de l'univers. Elle était live sur place.
Elle est active à 99, c'est hot, là.
Ouais.
C'est vraiment hot,
là. Fait que, elle dit qu'elle mal partout, mais ça, moi tout. Ça, fait que... fait que vivre
ça
en
bout.
Non! Ouais, ça s'améliorera pas.
Hey, 1925. Pensez à ça. Quelle année t'es né? 1925.
Effectivement.
T'as tout vécu.
C'est ça.
Le siècle du... Tu sais, c'est fou quand même.
Oui. OK, voilà, ça fait le tour. On est rendu de notre bord maintenant. Karen, c'est quoi ta nouvelle?
C'est Judith Desmeules qui nous apprend ce matin dans Le Soleil que les frais du procès du policier Christian Lachance pour agression sexuelle sur une collègue qui a débuté en mars, vous en a parlé, ça va se poursuivre en avril. Ben, ce qu'on apprend, c'est que c'est assuré par un fonds d'aide et d'assistance juridique de la Fraternité des policiers et pour ses membres accusés d'infractions criminelles. Mais là, la présumée victime là-dedans, c'est une collègue qui est également policière. Donc, les policiers, à chaque paye, là, verse un montant supplémentaire en plus de la cotisation syndicale vers ce fonds-là. Donc, ça veut dire que la présumée victime paye pour la défense de son présumé agresseur.
OK.
Et il y a des membres...
Mais c'est une règle, hein?
Oui.
Je veux dire, moi, là, je me souviens, à un moment donné, j'étais avec un représentant syndical, puis le gars, l'employé, il a appelé pendant que j'étais là. On était dans une voiture, puis l'employé, il a appelé, il dit, bon, mais là, ils ont trouvé bande vidéo, là, puis je me suis fait pogner à voler dans le shop. Le gars, il volait dans le shop, puis il s'est fait filmer, puis il s'est fait prendre. Puis là, il appelait son délégué syndical. Il dit, là, vous allez me trouver un avocat, vous allez me défendre. Puis je me souviens, le délégué syndical a dit, oui, oui, on va s'en occuper. Puis en raccrochant, il était en tabac. Tu sais, il dit, mais on est obligé. Lui, puis c'est pas la première fois, là. Tu sais, lui, il avait été averti, il était soupçonné de vol, il était... Puis avertissement par-dessus avertissement. Mais le syndicat a l'obligation de défendre
ses membres. C'était dans le cadre de son travail?
Oui.
OK, mais ben c'est ça. Là, en fait, il y a des membres
de la fraternité. OK, je comprends.
Il y a des membres de la fraternité là qui sont pas contents de devoir payer la défense de quelqu'un alors que c'est arrivé à l'extérieur du travail. Mais ce fonds-là est exactement pour ça. Et c'est là où est-ce que ça cause un certain problème, un certain malaise du moins. Et pour la fraternité des policiers, ben tu sais, là, t'as deux policiers qui sont en litige actuellement. Donc, c'est un peu le pire des scénarios pour eux. Mais ça frappe quand même, là.
Ouais, mais okay, je vais emmener ça plus loin, là. Je vais aller dans la mémoire des plus âgés, là. Quand le sergent Lefebvre a tué deux de ses collègues.
Ouais.
Hey, je repense à ça la semaine. Ça fait 2-3 semaines que ça me trotte dans la tête, cette histoire-là. Puis vous pouvez peut-être pitonner pour les détails. En quelle année c'est arrivé, ça, Lefebvre?
84, d'après moi.
84, moi tout, j'ai ça un peu comme idée. Puis les deux victimes étaient un dénommé Têtu.
Ouais.
Et l'autre s'appelait comment, donc?
Y'a-tu des gars de tapis, là?
Non. Attends un peu. Non, Lefebvre, c'est lui qui était policier, puis en service, tu sais, il volait dans des shops.
Ah, oui, OK.
Puis il y a deux policiers qui sont... Ils savaient pas... OK. C'est un policier qui était sergent, qui volait dans des industries de son quartier pendant qu'il était en service.
Oui.
OK? Et parce que les systèmes d'alarme qui partaient, c'est lui qui avait le call, fait qu'il avait le temps de retourner dans son char, puis de redébarquer, puis de faire comme si c'était le premier arrivé sur les lieux.
La police de Sainte-Foy, là.
La police de Sainte-Foy.
Il y a une émission là-dessus, là.
Ouais. Mais non, mais nous, on a parlé de ça, déjà, là. Oui, oui, oui.
Oui, c'est
Sergent Lefebvre.
C'est en quelle année?
Serge Lefebvre,
c'est en quelle année?
2011, 2012?
Non, c'est beaucoup plus vieux que ça. C'était les années 80. Probablement que c'est revenu...
85.
Ah oui, 85. 85, OK, on avait 84 en idée. Et j'aimerais ça qu'on souligne le nom des victimes dans ça. Et donc, pour les gens qui n'étaient pas au courant... Oui, vas-y, Pierre.
Jacques Giguère et Yves Têtu.
C'est en plein ça.
Yves Têtu
et Jacques Giguère. Et ce qui est arrivé dans ça, en 85, c'est que Lefebvre est allé voler dans une shop, dans un commerce, mais qui, cette rue-là n'était plus dans Sainte-Foy, mais dans Québec. Fait que il volait dans le magasin ou dans le shop, c'est une shop, me semble, et il a jamais eu le call du système d'alarme, parce que le call n'est pas rentré à Sainte-Foy, il est rentré à Québec. Et c'est là que les patrouilleurs de nuit de la police de Québec, Giguère et Têtu, se sont présentés dans le commerce. Fait qu'eux autres, quand ils rentrent là, puis ils voient, il voit une police en train de voler. Ben, la police, lui, il se fait pogner, et il sort son gun, et il tire les deux policiers, et il s'en va. Et ça va prendre quand même un certain temps avant qu'on retrouve le policier corrompu, si on veut. Puis donc, lui,
Ripou,
lui, il tue deux de ses collègues, et même ça, peut-être à son époque, je me souviens pas, est-ce qu'il avait été défendu par le syndicat des policiers de Sainte-Foy à l'époque, tu sais? C'est donc une genre d'histoire comme ça.
400 vols entre 69 et 85 dans le cas de Lefebvre. D'ailleurs, puis Karen n'était pas à côté de la traque tant que ça parce que lorsqu'il a été libéré de prison, il s'est fait prendre pour vol une quinzaine de vols. En 2011, 2012.
Ah, ouais, okay, ouais. Ça, je savais pas.
Ouais.
OK.
C'est fou, hein?
Voleur en série, là.
Mais il tue deux personnes en 85. 95, 2005. Ouais, OK, il a fait ses 25 ans. Il a fait ses 25 ans minimum, puis il est ressorti. OK, ça va trop vite, là. OK, donc je voulais vous ramener une vieille histoire de la police Ripou à cette époque-là. Donc, c'est assez triste de voir ça, puis de voir qu'il y a encore des policiers qui vont commettre des crimes comme Desjardins en question, là. Fait que ça complète, Karen?
Oui.
Voilà. Ray, toi, ta nouvelle, c'est?
Ben, c'est le jour J pour Donald Trump. Donald G. Trump doit trouver 464 millions de dollars aujourd'hui. À tout le moins, il doit prouver qu'il est capable de payer 464 millions de dollars.
OK. Pour, parce que là, j'ai pas suivi vendredi. Là, la cour d'appel n'a pas suspendu son jugement.
Non,
là,
non.
Fait que aujourd'hui. Il y a l'obligation de déposer ça aujourd'hui?
Oui, oui. Il a parlé en fin de semaine de mettre en bourse son média social Truth Social. Sauf que il y a des technicalités qui font qu'il touchera, il pourra peut-être pas toucher l'argent rapidement. Faut qu'il touche l'argent. Faut que la cour accepte le fait que Donald Trump est capable de payer le 464 millions de dollars. Alors, s'il n'y a pas ça en liquide, on pas souvent ça en liquide. On s'entend que c'est plus dur à trouver, mais il se vante d'être milliardaire, Donald Trump. Alors, il doit être capable de payer 454 millions.
En valeur, il l'est assurément.
C'est ça, il veut pas laisser d'actifs. Laisser d'actifs en caution. Puis, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler aujourd'hui. Il y a un terrain de golf du New Jersey qui est dans la mire de Mme James, la juge qui l'a condamné à 454 millions. Un terrain de golf, le Trump National à Westchester dans l'État de New York. Et puis, il y a aussi...
Ça vaut combien, ça?
Ça doit valoir quelques milliards, je crois.
Ah ouais, OK. Oui, elle veut saisir
c'est
ça.
C'est gros. Il y aurait ça dans la mire de la juge. Puis il y a la Trump Tower à New York qui, ça, c'est des milliards, c'est sûr. Mais ça appartient pas à Donald Trump. Là, c'est Donald G. Trump lui-même qui doit 454 millions. C'est pas la gang. La gang, c'est sûr que tu peux trouver ça facile dans
Oui, c'est ça. Mais en même temps, ses enfants, là, ils sont un peu victimes collatérales dans
un
ça.
Un petit peu, victimes, parce que ça va toucher probablement des actifs de la gang.
Ben, c'est ça. Eux autres, faut qu'ils acceptent que leur père y aille fouiller dans ça.
Mais la Trump Tower, elle serait à l'abri parce que ça appartient à... Elle appartient pas à Donald G. Trump nécessairement.
C'est dans un holding.
On pourrait pas toucher à ça, là, okay. Pour l'instant. Là. Mais quand même, ça peut être un jugement, ça peut être une journée importante pour Donald.
Mais plus il passe pour une victime...
Il doit être marabout à joie le vert en se levant un matin.
Ça, c'est sûr.
C'est certain.
Mais plus ça va mal, plus les Américains ont envie de le régler.
Oui, parce que lui, dans son discours, il dit « ils sont tous contre moi ». Regardez ça. Regardez comment est-ce qu'ils sont tous contre moi, là.
J'ai rien
c'est
fait.
C'est la campagne qui s'en vient, puis là, vous voyez ce qu'ils font, ce qu'ils me font. Donc, il réussit à tourner ça en victime.
Mais j'aime ça que ce soit ça ta nouvelle.
C'est major pareil là.
Oui, absolument. Puis on va voir aujourd'hui comment ça va se dérouler.
Il pourrait être accusé d'un autre cas de corruption aussi aujourd'hui. Ça c'est dans l'air à New York. C'est possible qu'on l'accuse d'une autre affaire de corruption. Ce serait surprenant par contre.
Mm-hmm.
Hein?
Absolument. Ouais, mais moi je veux m'inspirer de lui.
De Donald Trump.
Oui. Je vais me présenter à mairie à Lévis. Là.
Ça fait bien cette
affaire. Fait que là, je ne backerai plus.
Ils vont tout fouiller tes affaires. Là.
Non, c'est une joke. Hey. Ah. La direction du code de Cogeco, avec qui je viens de m'entendre pour 3 années supplémentaires,
t'avais refusé
a été très claire. Ouais. Mais j'étais... Tu sais, pour les gens qui pensent que des fois, c'est des stunts ou des affaires comme ça, j'étais très sérieux. Là. Pendant la pandémie... évidemment, vous comprenez, puis vous l'avez tous vécu dans des situations différentes. J'avais décidé de m'impliquer. J'étais très, très sérieux là, quand j'avais annoncé que je me présentais comme conseiller. Parce que moi, c'était surtout Pintendre que je voulais relever, là, que redonner vie à un village qui se meurt tranquillement, pas vite. Tranquillement, assez vite même. Mais il se meurt pareil. Fait que j'étais très, très sérieux. La direction m'avait envoyé une belle lettre. Là. Je vous l'avais lu en ondes en disant quelles étaient les conditions lié à ma candidature à devenir politicien, même au niveau municipal.
Donc, il fallait que tu choisisses entre les deux. Entre ton métier d'animateur et de présentant en politique.
Ou bien, je pouvais faire les deux. Là. Ils m'ont pas demandé de choisir, mais ils m'ont dit, voici les limitations que tu auras si ça devient ça. Et donc, je pouvais plus critiquer la ville ou, tu sais, j'aurais pas pu faire, mais là, ça aurait été invivable. Fait que, puis j'ai tellement de respect pour Pierre Martineau, qui est le grand boss de Cogeco Radio. Là. C'était sans équivoque pour moi que ses conseils. Puis il m'avait appelé aussi. Là. C'est tellement un gars réfléchi et bien à sa place que ça m'avait bien encouragé. Puis là, je vous en parle un matin. Pourquoi? Parce que puis ça, je l'avais entendu. J'aurais dû même vous le dire bien avant. Stephen Blainey est très intéressé par la mairie de la ville de Lévis. Fait que puis ça serait un maudit bon move, je pense. Évidemment que je vais sûrement trouver un moyen de le traiter de cabochon quand il va prendre une mauvaise décision. Mais c'est quelqu'un qui vit à Lévis, qui est dynamique. parce que j'ai eu à le côtoyer quand même à plusieurs reprises. Toutes les niaiseries dans lesquelles j'ai demandé d'embarquer, je pense au défi de natation, je pense à la démolition dans Bellechasse, c'est sûr qu'il le faisait à titre de politicien, puis c'était une activité de visibilité. Puis en plus, moi j'étais là, puis tu sais, quand on a fait la démolition à Saint-Raphaël, les bords à Jack, je pense que c'est l'été où il y a eu 14 000 spectateurs pour voir une course de démolition, là. T'sais, rendez-vous compte que c'est du monde en joie le vert, là. Fait que ça a été des grosses années. Et Steven serait peut-être un candidat très intéressant à la mairie de Lévis.
En speedo.
En speedo. Mais lui, il se tient en forme, Steven. Fait que tant mieux si ça se concrétise de voir quelqu'un avec un potentiel intéressant.
Il fait quoi, là?
S'amener en politique. Je pense qu'il travaille dans un bureau de ingénieur.
Ah oui,
ingénieur.
Ça me semble que c'est Hydrogène Québec, ça se
peut-tu? Je sais pas, pantoute. On n'est pas des. On soupe pas ensemble, là, mais.
L'appel du pouvoir encore pour lui.
Peut-être, effectivement.
Le corps, on l'aurait retrouvé à l'extérieur de la cabine. Plusieurs textos, là, j'ai comme 10 textos qui sont entrés, là, okay. Au sujet du corps retrouvé aux États-Unis.
Good. Ouais. Fait que voilà. Puis dans les renseignements, ah, tiens, d'autres renseignements aussi que de tous les sujets qu'on vient de bousculer au passage, les deux agents de police qui ont été tués par Lefebvre, il y a un des deux, là, je sais pas lequel, c'est ça que je cherchais, mais je l'ai pas trouvé. Fait que soit M. Giguère ou M. Têtu qui ont été les victimes, la fille de un d'eux est dans la police de Québec.
Ah ouais, OK.
Est à la police de Québec. Je sais pas d'ailleurs si on a fait une plaque commémorative. Tu sais, ils sont morts en devoir, ces gens-là, là. Mm. Tu sais, des policiers, genre, évidemment, là, récemment, on pense à Mme Bro, Maureen Bro, qui est décédée en fonction, en service. Mais des policiers à Québec qui meurent en service, c'est pas arrivé vraiment, vraiment souvent, là. Fait que, qu'est-ce que j'ai comme souvenir? Il y a le chef de police à Sainte-Marie.
Je les ai ici. Yves Têtu et Jacques Giguère, 3 juillet 85, qui sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 au total dans l'histoire de la ville de Québec. Puis c'est la nouvelle ville de Québec, là. Probablement que c'est tous les corps policiers qui sont rassemblés ensemble là-dedans, mais 11 qui...
Mais le plus récent, c'est lequel?
93. Il y en a deux, Paul Simard et Yvan Filto. Je vais essayer de te trouver ce qui s'est passé.
Caroline, ça me dit absolument rien.
Moi non plus.
Moi, je me souviens du chef de police de Sainte-Marie qui s'était fait tirer en pleine tête par Monsieur Mercier, là, qui avait également enlevé la vie à sa fille, je pense. Souvenez-vous de ça, il s'était barricadé dans sa maison pendant quelques jours. Puis le chef de police, dont j'ai oublié le nom, tabarnouche, que ça m'enrage. Et il connaissait très bien. Il dit, moi, il allait y parler, moi. Il est arrivé là pour y parler, mais il était tellement en psychose, Monsieur Mercier, qui en arrivant, il l'a tiré.
C'est un accident d'hélicoptère.
Ouais, il cherchait un septuagénaire disparu pas très loin dans le coin de Montmorency, puis il volait à basse altitude, les pales de l'hélicoptère qui...
Ah ouais? Ouais. Okay, il a accroché quelque chose?
Il a accroché un des câbles de téléphérique dans
ce secteur. Il n'y a pas un policier qui est mort dans la crise d'Oka?
C'est Jean Lemay? Oui, oui, absolument. Le statut de policier de Québec, ça?
Non.
Non, c'est la Sûreté du Québec, me semble, oui. C'est ça, parce que sur le territoire de la ville de Québec, il y a aussi la Sûreté du Québec, là.
Ouais.
Fait que, mais tu sais, au moins, juste à la ville de Québec, mort en service, le dernier, c'est 93, puis c'est l'accident d'hélicoptère. Tu sais, c'est quand même... Puis les mesures de sécurité se sont beaucoup améliorées, mais, tu sais, c'est quand même sécuritaire dans des petits endroits comme Québec. À Montréal, ça a brassé toujours un peu plus.
Les derniers mois sont plus violents un peu à Québec, là.
Ouais, là, c'est plus violent, là.
Mais c'est encore sécuritaire.
Ouais.
Les plaques souvenirs seraient à l'entrée du parc Victoria à l'intérieur. On dit que ce sera déménagé à la nouvelle centrale de police.
Bon, mais tant mieux. Merci des renseignements. Ouais. Merci de nous aider. Arthur le disait, à gang, on sait tout. Fait que c'est très apprécié. Qu'est-ce que j'ai ici? Ouais, c'est Monsieur Nadeau, le chef de police de Sainte-Marie, qui s'était fait tirer en pleine tête. Justement, il y a aussi, vous savez, le policier à la retraite qu'on a reçu ici, Pierre Sanson, vous savez que son père, Guy, était à l'époque, ça c'est particulier, c'était comme ça à Québec, mais il y avait la police de Lévis, il y avait la police de Lauzon, mm-hmm. Tu sais, il y avait des corps de police,
ben oui.
Il y avait des petits corps de police pour chacune des municipalités,
ben oui.
Et en 77, le père de Pierre, en service, s'était fait tirer aussi, il était décédé en service, donc...
Le 12 septembre 77.
Ouais. Qu'est-ce que
lors, lors d'une intervention, le super policier de la Sûreté du Québec, Monsieur Guy Sanson, qui demeurait à Lauzon, a été tiré en service. La ville de Lauzon n'aura jamais connu depuis d'obsèques aussi grandioses. Puis j'ai des images, c'est sur une page Facebook qui s'appelle Lauzon d'hier à aujourd'hui. Puis c'est des photos d'époque là, qui sont relayées. C'est fou. Il y avait un cortège malade dans la rue. C'est long, long, long et très, très dense. Là.
OK.
Ouais.
Donc,
Je sais pas si le service prend une autre dimension pour ces enfants de policiers qui sont décédés en service. Comprends-tu ce que je veux dire?
Non.
Tu sais, t'as ton père ou ta mère qui était policier, qui décède en service, et toi, tu décides quand même de faire ce métier-là. Est-ce que dans ta tête, il y a quand même ce risque, tu sais, ce danger, cette connaissance du risque qui s'ajoute, ou encore tu veux perpétuer ce que ton père ou ta mère a fait avant? Réflexion très humaine actuellement.
Ben, on invitera Pierre Sanson et on a plein de questions de toute façon parce que ça continue de brasser un petit peu à lui poser. Je pense qu'il y a un peu de poursuite de l'engagement de son père dans sa job. Fait que c'est toujours triste de voir des choses comme ça.
Dans les fusions à Québec, c'est le poste de police de Sainte-Foy qui est devenu le quartier général. Parce qu'il y a encore, à Victoria, mais là, la Victoria, ça va déménager.
Dans la nouvelle centrale.
Non, le poste de police de Sainte-Foy. Il me semble qu'on voit beaucoup de points de presse devant le poste de police de Sainte-Foy.
Ouais, parce qu'il y a des cadres qui ont des bureaux là, mais ça reste, le quartier général reste ouais. Parc Victoria qui va déménager, puis le poste de police de Sainte-Foy, dans lequel il y a plusieurs services municipaux aussi, sert vraiment plus pour l'ouest de la ville. Ouais. Donc, c'est.
Ça s'en vient, je pense, le nouveau poste de police, là. Je regarde ça, la construction.
C'est
avance
où,
pas
ça?
Mal. C'est le Bourgneuf, essentiellement le Bourgneuf, en haut de où t'as habité, là, le
ouais.
Vendée, c'est en haut de ça.
En haut de ça, OK.
Plus, en haut de la 80 par rapport à ça.
OK, OK, je n'avais pas vu l'endroit. Vous êtes dans Dupont le matin, bougez pas.